27. Jean Dibal dormit mal. Qu'il veillât ou qu'il rêvât, ses pensées et ses rêves étaient toujours engagés dans sa querelle avec Delora de Larmy. Dans un passage de l'un de ses rêves même, elle se confondait avec Ruffiran, le paysan choyen, si bien que Jean Dibal se retrouva face à une monstrueuse de Larmy qui avançait sur lui, brandissant ses poings énormes avec un doux sourire qui révélait des dents acérées. Il finit par s'éveiller, plus tard que d'habitude, sans avoir la sensation d'être reposé, tandis que vibrait en sourdine le communicateur de sa table de nuit. Il se retourna pour presser le contact.
« Oui ? Qu'est-ce que c'est ?»«
Orateur !» La voix était celle du concierge, pas précisément respectueuse. « Vous avez de la visite. »«
De la visite ?»
Jean Dibal appela son carnet de rendez-vous et l'écran ne lui révéla aucune rencontre avant midi. Il pressa le bouton de l'heure. L'affichage indiqua 8h32. Il demanda de mauvaise humeur.
« Par l'espace-temps, qui ça peut bien être ?»«
L'a pas voulu dire son nom, orateur. »
Puis, sur un ton manifestement désapprobateur,
« Toujours c'est choyen, orateur, bien entendu sur votre invitation. »
Cette dernière phrase dite sur un ton encore plus désapprobateur.
« Qu'ils m'attendent donc à la réception. Je vais descendre, mais pas tout de suite. »
Jean Dibal ne se pressa pas. Tout au long de ses ablutions matinales, il demeura perdu dans ses pensées. Qu'on se soit servi du choyen pour entraver ses mouvements, c'était envisageable après tout. Mais il aurait bien aimé savoir qui était ce « on » et à quoi rimait à présent cette intrusion d'un de ses choyens au sein même de ses quartiers. Quelques nouveaux pièges diaboliques ? Comment, au nom de Seldon, un paysan choyen pouvait-il bien s'introduire à l'université ? Quel prétexte pouvait-il bien invoquer ? Quelle raison réelle pouvait-il bien avoir ? Un bref instant, Jean Dibal se demanda s'il ne devrait pas prendre une arme. Mais il décida presque aussitôt de n'en rien faire, car il était dédaigneusement certain de pouvoir dominer mentalement n'importe quel paysan dans l'enceinte de l'université sans aucun risque pour lui, et sans risquer non plus d'altérer un esprit choyen de manière par trop inacceptable. Jean Dibal jugea qu'il avait été trop marqué par l'incident de la veille avec Carole Ruffiran. Au fait, était-ce bien toujours le même paysan ? Libéré peut-être à présent de toute influence, quelle que fût celle-ci, il pouvait fort bien être venu voir Jean Dibal pour s'excuser de ses actes, plein de la crainte d'un éventuel châtiment. Mais comment Ruffiran aurait-il su où se rendre et à qui s'adresser ? Jean Dibal descendit le couloir d'un pas résolu et pénétra dans la salle d'attente. Il s'immobilisa, étonné, puis se tourna vers le gardien qui faisait mine d'être occupé dans son cagibi vitré.
« Gardien, vous ne m'aviez pas dit que mon visiteur était une femme. »«
Orateur, répondit placidement le gardien, j'ai parlé des choyens en général, vous ne m'avez pas demandé plus. »
« Le minimum d'informations, hein, gardien ?
Il faudra que je m'en souvienne comme un de vos traits particuliers. »
Et il faudrait également qu'il vérifie si l'homme avait été nommé par Delarmy. Et il faudrait qu'il se souvienne dorénavant de repérer tous les fonctionnaires de son entourage, ces gratte-papiers qu'il était trop enclin à ignorer du haut de son poste tout neuf d'orateur.
L'une des salles de conférence est-elle libre ?
La 4 est la seule disponible, orateur. Elle est libre pendant 3 heures.
Il reluqua de biais successivement la femme, puis Jean Dibal, mine de rien.
« Nous prendrons la salle 4, gardien, et je vous prierai de garder pour vous vos pensées. »
Jean Dibal frappa sans ménagement, et le bouclier mental du gardien se rabattit avec bien trop de lenteur. Jean Dibal savait qu'il était indigne de son rang de manipuler un esprit inférieur, mais un individu incapable de dissimuler des idées déplacées à l'égard d'un supérieur méritait une petite leçon. Le gardien se paierait une bonne migraine durant quelques heures, c'était bien mérité. 28. Son nom ne lui revint pas immédiatement à l'esprit, et Jean Dibal n'était pas d'humeur à approfondir. De toute façon, elle pouvait difficilement espérer qu'il se souvienne. Il dit, l'air maussade,
« Vous êtes… »«
C'est ben moi, Novi. »
maître chercheur,
répondit-elle dans un souffle.
Soura, c'est mon prénom, mais on m'appelle Novi tout court.
Oui, Novi. On a fait connaissance hier, je me rappelle à présent. Je n'ai pas oublié que vous êtes venu à ma rescousse. Il ne pouvait se résoudre à prendre l'accent choyen dans l'enceinte de l'université. Mais comment avez-vous fait pour entrer ici ?
Maître, vous aviez dit que je pouvions écrire une lettre, même qu'elle devrait dire Maison des orateurs, appartement 27. Alors, je l'ai apportée avec moi et je leur ai montré. Une lettre à moi, maître,
ajouta-t-elle avec une sorte de fierté timide.
Pour qui que c'est qui me demande ? Je vous avais entendu dire votre nom à ce fléau Druffiran, alors j'y dis, c'est pour Store Jean Dibal, maître chercheur.
Et ils vous ont laissé passer, Novi, sans vous demander à voir la lettre?
Même que j'ai eu très peur. J'en pensais que peut-être ils allaient me faire colère, alors j'ai dit, chercheur Jean Dibal a promis de me montrer la maison des chercheurs. Et voilà qui sourit. L'un de ceux à la porte dit à l'autre,
« Sûr qu'il va pas lui montrer que ça. »
Alors ils me disent, « Où il faut que j'aille, et surtout, de pas aller ailleurs, que sinon, on me ficherait dehors illico. »
Jean Dibal rougit légèrement. Par Seldon, s'il éprouvait vraiment le besoin de courir la bagatelle avec une choyenne, il serait plus discret, et puis, il aurait quand même fait un autre choix.
Il considéra la trentorienne en hochant mentalement la tête. Elle avait l'air assez jeune, plus sans doute que ne le laissait paraître un corps marqué par les durs travaux des champs. Elle devait avoir 25 ans tout au plus, âge auquel la plupart des choyennes étaient déjà mariées. Elle portait ses cheveux bruns rassemblés en nattes, symbole du célibat, et même de la virginité, ce qui ne le surprit pas. Sa prestation de la veille avait amplement démontré ses talents de mégère, et il aurait été étonné qu'on puisse trouver un choyen prêt à tomber sous la coupe de cette langue de vipère et de ce poing facile. Et puis son aspect n'était pas non plus un cadeau. Malgré de louables efforts pour se rendre présentable, elle avait un visage ingrat, anguleux, des mains rouges et noueuses. Et pour ce qu'il en voyait, le reste de sa silhouette semblait plus bâti pour l'endurance que pour la grâce. Sous cet examen, elle se mit à trembler de la lèvre inférieure. Jean Dibal n'avait aucun mal à percevoir sa peur et son embarras, et il ressentit pour elle de la pitié. Elle lui avait effectivement rendu service la veille, et c'était cela seul qui comptait. Il dit, essayant de prendre un air apaisant, dégagé, « Alors, vous êtes venu voir la maison des chercheurs ?» Elle ouvrit tout grand ses yeux, qui n'étaient point laids, et dit
« Maître, faut pas vous fâcher contre moi. Mais je suis venue pour être chercheuse moi-même. »
« Vous voulez devenir chercheuse ?» Jean Dibal était abasourdi.
« Mais ma pauvre fille !»
Il s'interrompit. Comment par Trantor pouvait-on expliquer à une paysanne sans aucune éducation quels étaient le niveau intellectuel, la formation, la puissance mentale requis pour devenir ce que les Trantoriens appelaient un chercheur. Mais Soura Novi poursuivait bravement.
J'en appris à écrire et à lire aussi bien. J'en lus des livres entiers jusqu'à la fin, et même depuis le début aussi. J'ai envie d'être chercheuse. J'ai point envie d'être une femme de fermier. Je suis point faite pour la ferme. Je vois point marier un paysan ni faire des enfants de paysans. »
Et relevant la tête, elle ajouta avec fierté.
« C'est pas qu'on m'a demandé plus d'une fois, mais je dis toujours non, poliment, mais c'est non. »
Jean Dibal vit bien qu'elle mentait. On ne lui avait jamais demandé, mais il n'en laissa rien paraître. Il demanda plutôt « Que comptez-vous faire si vous ne vous mariez pas ?» Novi frappa la table du plat de la main.
« Je vais être chercheuse, point fermière. »
« Et si je n'arrive pas à faire de vous une chercheuse ?»«
Alors, je serai rien. Et j'aurai plus qu'à mourir. » Je veux rien faire d'autre qu'être chercheuse. »
Un moment, il eut envie de lui sonder l'esprit pour vérifier l'étendue de sa motivation. Mais il ne serait pas correct d'agir ainsi. Un orateur ne s'amusait pas à fourrager dans le crâne d'un innocent. Il y avait un code de la science et des techniques du contrôle mental, la mentalique, comme dans les autres professions. Enfin, il devrait y en avoir un. Il regretta soudain son attaque précédente contre le gardien. Il reprit. « Mais pourquoi ne pas être fermière, Novi ? » Au prix d'une petite manipulation, il pourrait la rendre contente de son sort, puis manipuler l'un de ses rustres pour lui donner envie de l'épouser, et vice-versa. Ça ne serait pas bien méchant. Ce serait même un acte charitable. Mais c'était illégal, et par conséquent impensable. Elle répondit « Pas question. Un fermier, c'est qu'un tas de boue. Il travaille en plein dans la glaise, et il devient une motte de glaise. Si je suis fermière, je deviendrai motte de glaise à mon tour. J'aurai plus le temps pour écrire, et pour lire, et j'oublierai. Ma tête, elle se posa la main sur la tempe, va se gâter, et pourrir. Non. Un chercheur, c'est autre chose. C'est pensif. » Ce qu'elle voulait dire, c'était intelligent, nota Jean Dibal, non pas réfléchi. « Un chercheur, ça vit avec des livres et j'ai oublié comment qu'ils appellent ça. » Elle esquissa un vague mouvement de manipulation qui n'aurait rien évoqué pour Jean Dibal s'il n'avait eu ses radiations mentales pour le guider. « Des microfilms, » précisa-t-il. « Comment faites-vous pour connaître les microfilms ?»«
J'ai lu ça dans les livres, j'ai lu plein de choses. »
dit-elle avec fierté. Cette fois, Jean Dibal ne pouvait plus réfréner son envie d'en savoir plus. Cette choyenne n'était pas banale. Il n'avait jamais entendu parler d'un cas de ce genre. On ne recrutait jamais de choyens, mais si Novi avait été plus jeune, mettons qu'elle ait eu 10 ans. Quel gâchis! Il ne voulait pas perturber son esprit. Il ne le perturberait pas le moins du monde. Mais à quoi bon être orateur si on ne pouvait observer un esprit lorsqu'il sortait de l'ordinaire pour en apprendre quelque chose? Il se décida. « Novi, tu vas rester assise comme ça quelques instants sans bouger, ne dis rien. Ne pense même pas à des paroles. Pense simplement que tu es en train de t'endormir, c'est bien compris ?» Sa terreur la reprit aussitôt.
« Pourquoi que je dois faire ça, maître ?»
Pour que je puisse réfléchir aux moyens de faire de toi une chercheuse. Après tout, malgré tout ce qu'elle avait pu lire, il était impossible qu'elle puisse savoir exactement ce que signifiait être chercheur. Il était par conséquent nécessaire qu'il découvre ce qu'elle pouvait bien imaginer derrière ce mot. Avec un luxe de prudence et une infinie délicatesse, il sonda son esprit, l'effleurant sans vraiment le toucher, comme une main qui se pose sur une surface de métal poli sans y laisser d'empreinte. Pour elle, un chercheur, c'était quelqu'un qui lisait des livres. Elle n'avait pas la moindre idée du pourquoi de la chose. Pour elle, être un chercheur, l'image qu'elle s'en faisait, c'était d'accomplir les tâches quotidiennes qu'elle connaissait, ramasser, porter, cuisiner, nettoyer, obéir, mais de le faire dans l'enceinte de l'université, où les livres étaient disponibles, et où elle aurait donc le temps de les lire. Et, mais c'était très vague, de devenir éduquée. Bref, ce qu'elle désirait en somme, c'était être servante, sa servante. Jean Dibal fronça les sourcils. Une bonne choyenne, qui plus est une bonne quelconque, sans grâce, sans éducation, et quasiment illettrée. Impensable. Il avait simplement à la distraire de cette idée. Il devait bien y avoir un moyen de rajuster ses désirs pour qu'elle se satisfasse de devenir fermière, un moyen ne laissant pas de traces, un moyen auquel même Delarmie ne trouverait rien à redire. Ou bien avait-elle été envoyée par Delarmie ? Tout cela procédait-il d'un plan tortueux visant à l'amener à toucher à l'esprit d'un choyen, histoire ensuite de pouvoir le coincer et le destituer ? Ridicule. Il frisait vraiment la paranoïa. Quelque part au milieu des vrilles de cet esprit simple, un mince ruisseau mental avait besoin d'être dérivé. Cela n'exigerait qu'une pichenette,
Il était contre la lettre de la loi, mais ce n'était pas méchant, et personne ne s'en rendrait compte. Il marqua une pause.
Recule. Encore. Encore.
Par l'espace. Et il avait failli ne pas le remarquer. Était-il le jouet d'une illusion? Non. Maintenant que son attention avait été attirée dessus, c'était clairement évident. Une vrille, minuscule, qui était déplacée, d'une manière anormale. Oh, un déplacement minime dépourvu de ramifications.
Jean Dibal émergea de son esprit. Il dit doucement « Novi ?»
Elle fixa les yeux sur lui.
« Oui, maître. »
« Tu peux travailler avec moi. Je vais faire de toi une chercheuse. »
Ravie, les yeux flamboyants, elle dit « Maître !»
Il le décela à l'instant. Elle était sur le point de se jeter à ses pieds. Il lui mit les mains sur les épaules et la maintint fermement. « Pas un geste, Novi. Reste où tu es, ne bouge pas. » Il aurait aussi bien pu parler à un animal à moitié dressé. Une fois sûr que son ordre avait été assimilé, il la relâcha. Il avait conscience de la fermeté des muscles qui roulaient sous ses épaules. Il lui dit « Si tu veux devenir une chercheuse, il va falloir te conduire comme telle. Ça signifie que tu devras toujours être calme, parler avec réserve, faire toujours ce que je te dirai de faire. Et il faut que je t'apprenne à parler comme moi. Tu vas devoir aussi rencontrer d'autres chercheurs. Tu n'auras pas peur ?
J'aurions. J'aurais pas peur, maître, si vous êtes avec moi.
Je resterai avec toi. Mais d'abord, il faut maintenant que je te trouve une chambre, que je m'arrange pour te faire attribuer un cabinet de toilette, une place au réfectoire et puis des vêtements aussi. Il va falloir que tu portes des habits plus appropriés à la fonction de chercheur, Novi.
C'est tout ce que...
commença-t-elle piteusement. On va t'en trouver d'autres. Il allait à l'évidence devoir trouver une femme pour préparer à Novi une nouvelle garde-robe. Il allait également avoir besoin de quelqu'un pour lui enseigner les rudiments de l'hygiène personnelle. Après tout, même si les vêtements qu'elle avait sur elle étaient ses plus beaux et même si elle s'était manifestement pomponnée avant de venir, il émanait encore d'elle une nette odeur vaguement désagréable. Et il lui faudrait également s'assurer qu'il n'y ait pas de malentendu sur leur relation. C'était un secret de polichinelle que les hommes, les femmes aussi, de la seconde fondation, allaient épisodiquement chercher leur plaisir auprès des choyens. S'ils se gardaient de toute interférence avec leur esprit en cours de route, personne ne songeait à s'en formaliser. Personnellement, Jean Dibal ne s'était jamais permis ce genre de choses, et il se plaisait à croire que c'était parce qu'il n'éprouvait pas le besoin d'avoir des expériences sexuelles plus exotiques ou plus épicées que celles possibles d'ordinaire à l'université. Les femmes de la seconde fondation étaient peut-être fades en comparaison des choyennes, mais au moins elles étaient propres, et elles sentaient bon. Pourtant, même si l'on se méprenait sur la nature de leur rapport, même si l'on ricanait d'un orateur qui non seulement avait un faible pour les choyennes, mais en ramenait en plus une dans sa chambre, il faudrait qu'il supporte tout cela. Le fait demeurait que cette paysanne, Soura Novi, était bien la clé de la victoire dans le duel qui s'annonçait inévitablement entre l'oratrice de l'armée, le reste de la table et lui.